15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. Pour vous éclairer, pour vous rassurer, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au programme aujourd'hui, évidemment, en début d'émission, nous commenterons les dernières mesures annoncées par le président de la République Emmanuel Macron pour donner un grand coup de frein à l'épidémie de coronavirus en France. Nous verrons en quoi notamment la fermeture des écoles, des crèches peut être une mesure efficace pour ralentir la propagation du virus. Ensuite, on a décidé de conserver notre dossier du jour qui est consacré au sommeil, car on s'est dit que s'il y a bien une chose dont on a tous besoin en ce moment, c'est de bien dormir. Alors un tiers des Français se plaignent de troubles du sommeil et c'est vrai que ça risque un peu d'augmenter en ce moment. Donc avec notre invité, le sophrologue Patrick Lesage, il est membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, on va vous donner des conseils pour en finir avec par exemple les insomnies ou les réveils à répétition. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, en pleine épidémie de coronavirus, il a voulu nous faire un point sur ce qu'est vraiment une pneumonie et bien sûr sur son traitement. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler d'un problème assez courant, l'aérophagie. Et puis, pour terminer, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, il sera question de jeux de rôle et des déguisements durant les rapports sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, un point donc sur l'épidémie de coronavirus avec le président Emmanuel Macron qui a pris la parole hier soir. On écoute un extrait.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire.
Bon, on va pas se mentir, Jimmy, c'est la mesure qui va bouleverser notre quotidien dès lundi, en tout cas les parents. C'était nécessaire vraiment ?
Oui, ça semblait en tout cas inévitable sur le court ou moyen terme. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferme les écoles ? On pense que dans le coronavirus, ce sera un peu comme la grippe. C'est une hypothèse, mais on n'est même pas très sûr. C'est que les enfants dans la grippe sont vecteurs de la maladie et l'épidémie part d'eux. Et on pense que pour le coronavirus, les enfants pourraient aussi être vecteurs de la maladie, d'autant plus qu'ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont
très
pas de symptômes.
Ouais, c'est ça.
Ils peuvent quand même rendre malades les autres et donc, en laissant un peu en quarantaine ces écoles, on permettrait de stopper ou en tout cas de ralentir un petit peu l'épidémie.
Alors on comprend bien l'objectif de cette mesure, Jimmy, mais dans les faits, tous les parents de jeunes enfants sont un peu dans la mouise, hein, faut le dire. D'ici lundi, il va falloir s'organiser. Donc pour les faire garder, certains vont avoir la tentation d'appeler les grands-parents et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Hein.
C'est ce qu'il faut plutôt éviter puisque, alors, dans un premier temps, on a rappelé que les personnes de plus de 70 ans doivent rester chez elles et limiter les déplacements inutiles. Pourquoi ? Car la maladie est plus sévère et la mortalité augmente franchement à partir de 70 ans. Elle est de 15% à partir de 80 ans. Donc les personnes âgées de plus de 70 ans doivent rester chez elles. Donc si jamais les enfants étaient malades sans qu'on s'en rende compte, ils pourraient transmettre donc l'infection aux grands-parents qui, à leur tour, seraient malades, mais
avec
de façon plus sévère.
Avec un risque de décéder en plus bien plus important.
Et de décéder à ce moment-là. Donc on évite, même si on pense que les enfants ne sont pas si contagieux que ça, ils le sont, mais pas autant que ce qu'on a pu croire initialement, mais avec une zone d'incertitude.
Très bien. Alors si on est passé à ce type de mesure, les écoles fermées, les plus de 70 ans qui doivent rester chez eux, c'est parce que sur le terrain, le nombre de gens infectés ne cesse d'augmenter. Vous, c'est votre quotidien, hein, Jimmy, vous faites des consultations au domicile et vous envoyez des patients contaminés.
Enfin, oui,
vous pensez,
je vois des patients qui doivent être évalués, qui ont été vus à l'hôpital, qu'il faut revoir, puisqu'ils se sentent un peu moins bien. Je vois des cas très suspects, on ne teste plus les gens, on teste simplement les malades graves et le personnel soignant pour les arrêter. Donc j'en vois, mais moi, ceux que je vois vont plutôt bien, il faut rassurer les gens. Après, peut-être que ceux que les médecins peuvent voir en réanimation, ils vont moins bien.
Évidemment.
Mais j'en vois tous les jours et on en verra de plus en plus et il faudra s'habituer à ça.
Alors justement, pour les soignants en première ligne, comme vous, Jimmy, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était l'invité de Sonia Mabrouk dans la matinale d'Europe 1 ce matin, a annoncé de nouvelles mesures pour mieux les protéger. On l'écoute.
Nous devons la protection à ceux qui nous protègent. Il faut armer les médecins, les infirmières, mais aussi les kinés, les dentistes, tous les acteurs de santé en ville. Et nous devons les protéger. Donc oui, je suis en train de rendre publique la doctrine d'utilisation des masques. J'ai informé, par exemple, hier soir, tous les leaders syndicaux des médecins libéraux, ainsi que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité, qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique.
Alors ces masques FFP2 de haute sécurité pour vous, enfin qui protègent vraiment encore plus que les autres, vous les aurez bientôt. Pour l'instant, vous vous protégez comment au quotidien ?
Alors désormais, je mets un masque systématique. Tout patient est un cas suspect pour moi. Même un nez qui coule, je mets un masque pour me protéger et protéger aussi les autres. J'ai renforcé les mesures de désinfection, donc on nettoie de façon méticuleuse le matériel.
Terminal de carte bleue,
exactement,
même.
Exactement, le stéthoscope, le brassard, attention, on fait très attention. On met un masque chirurgical pour l'instant, et puis l'idéal serait aussi que les patients puissent en avoir. Pour l'instant, ils sont sur prescription médicale. Le problème, c'est que lorsque je vous fais une prescription de masque, car vous êtes problème malade, la pharmacie ne peut pas vous en délivrer. Donc il faudra éclaircir cette zone d'ombre dans les jours qui arrivent.
Et c'est ce qui sera fait, j'en suis sûre. Merci beaucoup Jimmy. Alors, des questions autour du coronavirus, on en a encore beaucoup et nous y répondrons dès lundi de 15h à 16h avec des spécialistes sur ce plateau. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous préciser de quoi on parle quand on parle de pneumonie, finalement. Et puis, on accueillera aussi notre invité pour notre dossier sur le sommeil. C'est Patrick Lesage. Il est sophrologue et membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, dans ce contexte d'épidémie au coronavirus, vous avez souhaité refaire une mise au point justement sur l'une de ces complications, à savoir la pneumonie, car elle date pas du coronavirus finalement. La pneumonie, cette infection hors coronavirus, elle est si fréquente que ça d'ailleurs ?
Et oui, on a l'impression qu'on découvre la pneumonie avec le coronavirus. Or, une journée mondiale lui est déjà consacrée à cette pneumonie. 6 organisations, dont l'UNICEF, alertent et rappellent qu'un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 39 secondes de cette infection respiratoire. En France, c'est 1,5 million de personnes chaque année qui en souffrent. Elle est responsable de 10 à 13 000 décès par an.
Oui,
en France, c'est la première cause de décès par infection dans les pays occidentaux et elle est potentiellement grave chez des sujets jeunes et même sans comorbidité, c'est-à-dire sans problème de santé au préalable.
D'accord. Comment on sait qu'on a cette infection tous, j'imagine, non ?
Exactement. Enfin, ouais. La pneumopathie, ça associe plusieurs signes respiratoires. Vous allez tousser, vous allez cracher souvent avec des sécrétions purulentes. Vous serez essoufflé, l'essoufflement est souvent marqué. Vous pouvez avoir des douleurs thoraciques lorsque la plèvre est touchée. La plèvre, c'est l'enveloppe qui recouvre le poumon. Et puis, vous allez avoir de la fièvre, une fièvre persistante, et vous allez être très fatigué. Le médecin, lorsqu'il vous ausculte, peut trouver ce qu'on appelle un foyer à l'auscultation. Il vous envoie faire une radio de thorax en ville qui confirme le diagnostic.
Radio des poumons.
Des poumons. Aucun bilan biologique en ville n'est nécessaire. Les seuls bilans qu'on fait, c'est lorsqu'on va à l'hôpital.
Mais parce que ça se traite en ville, la pneumonie, vous avez dit que c'était une infection quand même grave. Donc j'imagine qu'il faut aller à l'hôpital. Non,
alors,
pas forcément.
On peut être évalué à l'hôpital et il y a un score tout simple qui s'appelle le CRB65 qui est utilisé par les médecins essentiellement avec 4 items, à savoir si vous êtes confus, si vous êtes gêné pour respirer, si votre tension est basse ou si vous avez plus de 65 ans, si vous avez un seul de ces points, c'est le médecin qui fait le calcul, vous devez être évalué à l'hôpital systématiquement. Si vous avez 0 sur 4,
sinon ça
vous
traite
pouvez
à la
être
maison.
En ville. Évidemment, si vous avez des antécédents pulmonaires particuliers, il convient peut-être parfois d'être hospitalisé.
Et du coup, il n'y a pas que ce coronavirus donc, qui peut donner des pneumonies, hein, c'est ça ?
Mais non, la pneumonie, il y a plein de bactéries. Il y a le pneumocoque, celui qu'on connaît. C'est le plus fréquent, notamment chez les personnes hospitalisées. Il y a la légionelle dont on a parlé à un moment. Mmh. Alors là, c'est plus des circuits particuliers, notamment dans les climatisations qui auraient été mal nettoyées et ça touche plutôt les personnes...
On en avait déjà parlé aussi.
Exactement, immunodéprimées. Et puis, on a des bactéries qu'on dit atypiques, qui touche plutôt les sujets jeunes. Alors, il y a Mycoplasma pneumoniae, le chlamydia, il y a des bactéries particulières. Et enfin, certains virus, on s'est rendu compte, donc là, on a le coronavirus, mais d'autres virus, notamment le virus de la grippe, peuvent donner justement infections pulmonaires.
Comment on s'en protège donc de la pneumonie ?
Eh bien, c'est les mêmes mesures barrières.
Et qu'on n'arrête pas de vous rabâcher ici dans son rendez-vous ?
Ben oui, c'est ces mesures barrières dont on parle tout le temps. Effectivement, on les rabâche, mais c'est de se laver les mains, éviter de se moucher et de mettre le mouchoir dans la poche. C'est de serrer les mains continuellement. Donc, l'hygiène des mains permet d'éviter le coronavirus, mais aussi toutes les infections respiratoires qui traînent en ce moment.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Patrick Lesage. Il est sophrologue, membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Il est aussi l'auteur du livre « 2 heures chrono pour mieux dormir » aux éditions d'Uno.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Patrick Lesage.
Bonjour Mélanie.
Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors avec vous aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale du sommeil, on va tenter de comprendre ce qui nous empêche de dormir et surtout trouver des solutions à tous ces problèmes. C'est quoi les problèmes les plus fréquents aujourd'hui ? C'est juste le fait de ne pas dormir assez peut-être qui pose problème à beaucoup de Français ?
Bah, le problème concernant le sommeil, c'est soit la qualité, soit la quantité de sommeil. Et puis, il y a des plaintes comme l'insomnie. Et puis, il y a un certain nombre de troubles du sommeil qui ne font pas l'objet de plaintes, mais qui devraient quand même être pris en charge.
Jimmy ?
Et j'ai l'impression que c'est très fréquent que tout le monde souffre de troubles du sommeil. Est-ce qu'on surestime parfois un peu les chiffres ?
J'ai l'impression qu'on sous-estime, en fait. Enfin, il y a aussi des docteurs, Jimmy, les insomnies paradoxales, par exemple, hein, où les gens pensent qu'ils ne dorment pas bien, alors qu'en fait, ils dorment, ils ont un sommeil de qualité. Et quand ils sont mis à l'hôpital, en clinique,
en centre de sommeil,
en fait, ils s'aperçoivent que, ben non, finalement, ils dorment. Donc, il y a une fausse idée aussi sur le sommeil.
Mais c'est
donc,
quoi, c'est... un tiers, je crois, de la population qui a des troubles,
oui.
Hein, c'est ça.
Globalement, l'insomnie, oui. Mais les insomnies, c'est pareil, c'est pas... j'ai pas dormi 2-3 nuits de suite, hein, là où, effectivement, on peut avoir tendance à surestimer, à aller voir son médecin et tomber sur, parfois... des traitements médicamenteux qui ne sont peut-être pas obligatoirement adaptés. En revanche, les insomnies chroniques sont d'ailleurs repérées sur le plan international, hein, avec des critères précis d'endormissement, de maintien de sommeil, etc., au moins 3 fois par semaine, depuis plus de 3 mois. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement à la légère.
Il y a beaucoup de gens qui prennent les médicaments à tort aujourd'hui, hein, c'est ça le problème. Aujourd'hui, ce ne sera pas d'ailleurs le sujet de notre émission du tout, on va parler d'autres méthodes, hein, mais il y a beaucoup de gens qui en prennent des somnifères pendant des années et qui ont tort, finalement.
Oui, alors il y a une vraie prise de conscience depuis plusieurs années, à la fois de la part des médecins et des pharmaciens, et des campagnes, notamment au début d'hiver, dans les pharmacies, où là, on essaie de limiter et de faire comprendre aux personnes que c'est peut-être pas le médicament, le somnifère qui fera dormir, bien au contraire.
Patrick Lesage, ce n'est que le début de cet entretien. Bien sûr, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons décortiquer les raisons, les causes de nos nuits si compliquées. Parfois, l'utilisation massive des écrans n'a évidemment rien arrangé, mais pas seulement. Vous, moi, on a trop pris la mauvaise habitude de ne pas respecter notre horloge biologique individuelle. On va vous expliquer tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous. Alors aujourd'hui, dans le contexte coronavirus assez angoissant quand même, vous êtes sûrement nombreux à essayer de vous organiser pour faire garder vos enfants dès lundi. Eh bien nous, on a décidé pour le moment de vous faire du bien aujourd'hui et de conserver notre dossier du jour consacré au sommeil, car on a tous besoin au moins en ce moment de bien dormir. Alors pour ce faire, à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est Patrick Lesage. Il est sophrologue, membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Patrick, à présent, on va passer ça un peu en revue les causes de nos troubles du sommeil. D'abord, je crois que vous dites que finalement, on ne s'écoute pas assez. C'est-à-dire que la majorité des gens qui ont des problèmes pour dormir, finalement, on voit qu'ils ne respectent pas tout simplement leur horloge biologique.
Oui, alors ça, c'est un phénomène. Mais juste avant, en très raccourci, je voudrais dire qu'il y a quand même parfois des composantes familiales. Syndrome des jambes sans repos, le syndrome d'apnée du sommeil, on peut avoir une composante familiale. On peut aussi avoir une évolution naturelle avec l'âge, l'apparition du somnambulisme et sa disparition aussi. Et puis le trouble du comportement sommeil paradoxal, qui est quelque chose de très récent, qui a moins de 10 ans, hein, comme découverte en gros. Et puis tout ce qui est lié à notre environnement, personnel ou professionnel, avec le stress professionnellement, les déplacements, familialement, peut-être les rapports avec les enfants, les parents, le conjoint.
Jimmy ?
On parle d'horloge biologique. Moi, pour regarder l'heure, je regarde ma montre. Mais comment on fait pour savoir si on respecte notre horloge biologique ? Parce que finalement, on n'a pas tellement d'indicateurs. Parfois, on a peut-être de mauvais comportements, mais sans s'en rendre compte.
Combien de personnes regardent l'heure la nuit ? Ce qui est une aberration. Ça ne sert à rien.
Quand on se réveille, vous voulez dire ?
Oui, se réveille. Le réflexe, c'est de regarder l'heure. Et quand on pose la question aux gens, pourquoi vous regardez l'heure ? Pour savoir combien de temps il me reste à dormir.
Ah, ça
vous
sert à tout,
quoi ?
Ouais,
et ça ne sert à rien. Si ce n'est vous stresser. Et d'ailleurs, un réveil, c'est fait pour ceux...
réveiller.
Donc, ce n'est pas une montre. Voilà. Ouais, donc, vraiment, c'est un petit truc à faire. Voilà. Alors, l'horloge, comment la connaître ? Chacun a son horloge. Il y a des couches tôt, il y a des couches tard. Quand on est en couple, il faut bien prendre conscience qu'on n'a pas obligatoirement la même horloge. Donc, il faut respecter l'autre.
Et si on veut quand même se caler sur le rythme de son conjoint, parce que finalement on veut faire des efforts et finalement passer un petit peu plus de temps ensemble, est-ce que le week-end on peut compenser finalement les écarts ou les excès qu'on a pu commettre en semaine en dormant un peu plus, en faisant la sieste ? Est-ce que c'est des outils qui peuvent aider ou au contraire, il ne faut surtout pas faire ça ?
Alors si vraiment vous voulez vous caler sur votre conjoint, la luxthérapie peut aider.
La luxthérapie,
parce qu'il y a la lumino. La luxthérapie, c'est beaucoup plus large. Ça va aller du simulateur d'eau à la luminothérapie en tant que telle. L'utilisation de la lumière pour recaler. Ça, c'est si vous voulez, de façon un peu définitive ou quasi définitive, vous recaler sur l'autre. Maintenant, le week-end, alors combien de personnes aussi, le soir, vont dire « j'ai quand même pas allé me coucher maintenant, c'est quand même, j'ai pas vu la journée ». Alors, ils vont cumuler une difficulté, une dette de sommeil en fait, puisqu'ils n'auront pas leur quota. et vont se dire bah, « je vais récupérer le week-end », notamment en faisant par exemple la grasse matinée, ce qui est une aberration. Mmh. La grasse matinée est une très mauvaise idée. En fait, c'est le dérèglement de notre horloge. On va amener un dérèglement et en fait, on est en train de pousser la boule de neige qui est devant nous.
Patrick Lesage, on va poursuivre cette discussion dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, évidemment, on passe aux solutions pour mieux dormir. Vous souffrez d'insomnie, de réveil à répétition. Ce qui va suivre va vous intéresser. On ne va pas parler médicaments aujourd'hui, hein, mais uniquement d'astuces du quotidien et d'approches de médecine plus douces, finalement, pour retrouver un sommeil de qualité, comme la sophrologie ou la méditation. Ça fonctionne très souvent. On va vous détailler tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Patrick Lesage. Il est sophrologue et membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Alors vous vous dites peut-être qu'on devrait plutôt parler de coronavirus aujourd'hui et on le fera, promis. Lundi, nous consacrerons une heure à toutes les questions que vous vous posez sur l'épidémie actuelle et son impact sur votre quotidien. Mais pour le moment, aujourd'hui, on essaye de vous aider à vous détendre et déjà à bien dormir. Alors Patrick Lesage, nous passons maintenant aux solutions, aux traitements en quelque sorte pour retrouver un sommeil de bonne qualité. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, on parlera pas de médicaments dans cette émission, on va proposer une approche plutôt psychocorporelle. Vous Patrick, quand vous recevez des patients dans votre cabinet qui dorment mal, vous commencez par quoi ?
Essayez de leur demander quelle est leur difficulté. Parce que là encore, il faut ajuster, on ajustera la solution en fonction du problème, si réellement il y a problème. Parce que parfois, il n'y a pas problème. Les gens qui viennent vous dire, je viens vous voir parce que le médecin m'a dit que vous travaillez sur le sommeil et que voilà, qu'avez-vous ? Ah ben je me réveille la nuit. C'est normal, on se réveille toutes les heures et demie. Donc parfois, les gens vont aller sur des idées qui sont fausses.
C'est-à-dire que vous n'allez pas proposer le même traitement à tout le monde. Par exemple, on ne va pas dire à tout le monde, bah, faites de la méditation par exemple. Chaque traitement est un peu individualisé en fonction du trouble du sommeil qu'on a et puis aussi peut-être à la personne et à la personnalité du patient que vous avez en face.
Évidemment, le dernier point est hyper important. Si vous proposez des techniques trop calmes, tranquilles à des personnes qui sont un peu toniques, ça va peut-être pas fonctionner.
Marcher, ouais.
Voilà. Donc effectivement, c'est en fonction de la demande, enfin de ce qu'on a pu estimer comme étant le besoin et de la personnalité.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de la phytothérapie ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on a dit qu'on parlait pas de médicaments, donc on parle plutôt des médecines un peu plus douces. La phytothérapie, les plantes, les huiles essentielles, est-ce que ça peut être une aide pour certaines personnes qui ont des petits troubles du sommeil ?
Oui, certainement. Par exemple, la camomille est reconnue par l'OMS. Le houblon par la commission E en Allemagne. Voilà. Donc on a certaines reconnaissances claires, la valériane, l'escotia, le tilleul, la mélisse, etc.
Mais attention à manier avec précaution quand même, hein. Alors, il faut demander conseil à son pharmacien par
le
exemple.
Le pharmacien ouais. est pour moi l'essentiel
parce
du
qu'il y a
bon
des
conseil,
risques
parce
aussi.
Que le pharmacien il vous connaît, le médecin évidemment il vous connaît aussi, mais le pharmacien il connaît aussi les produits et il a des formations pour adapter éventuellement ce qu'il va vous donner en huile essentielle. Si vous donne de la phyto, sous quelle forme ? Est-ce que ça sera dans des décoctions ?
Oui, c'est clair. Moi, je dis clairement aux patients, je suis très honnête, je ne touche pas une bille en phytothérapie
oui.
ou en huile essentielle. Il faut avoir l'honnêteté de le dire parce qu'il peut y avoir des interactions. On peut se brûler dans le bain si on fait n'importe quoi en mettant des huiles essentielles.
Donc, si on est enceinte, il ne faut pas les utiliser.
Exactement, chez certains enfants, c'est contre-indiqué. Donc, voilà, vous avez raison de signaler qu'on ne prend pas ça comme des bonbons et un peu parce que c'est à la mode. Est-ce que l'hypnose, c'est une recette qui peut marcher chez tout le monde ? C'est un peu à la mode. Je ne sais pas si c'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peut-être pour des bonnes, mais est-ce qu'avec deux séances d'hypnose, ça y est, on dort mieux et puis on passe à autre chose ?
Je ne crois pas beaucoup aux méthodes qui s'adaptent à tout le monde et qui ont des résultats avec chacun. Je pense que certains vont être prêts à la suggestion et d'autres pas du tout. Donc certains ont peur, donc s'ils ont peur, ça ne fonctionnera pas.
Vous, votre spécialité, c'est quand même la sophrologie, donc la méditation aussi. Ça, clairement, vous avez réussi à régler, vous réglez beaucoup de problèmes de sommeil avec ces thérapies-là.
Anecdote, médecin référent chez qui je vais de temps en temps, l'autre fois, je lui dis, mais au fait, qu'est-ce qu'ils vous disent vos patients par rapport au sommeil, puisque vous m'envoyez un certain nombre de personnes. Il me dit, je ne sais pas ce que vous leur faites, ils ne me parlent plus de leur sommeil. Voilà. Alors, soit effectivement, ils ont honte de dire qu'ils ont envoyé voir quelqu'un qui tenait pas la route, soit ça a fonctionné. Alors, j'enlève l'effet placebo, hein, évidemment. Mais voilà, non, ça peut fonctionner, mais il faut juste estimer. Et puis, je crois beaucoup aussi à l'autonomisation.
Ouais.
Exactement, merci, des personnes. Parce que dans certaines pratiques, on peut avoir tendance à se reporter sur... l'accompagnant et finalement ne dépendent de lui. Or, c'est le fait que les gens soient seuls et se débrouillent seuls avec leur pratique qui fonctionne. Mmh.
La méditation, c'est tous les jours? On doit faire ça ou on peut faire ça que deux fois par semaine et puis on est tranquille?
Alors, la méditation, le gros avantage, c'est très encadré, en tout cas pour la formation, puisque c'est accéléré et c'est très encadré. C'est 8 semaines sur 2h30 par semaine.
Vous apprenez aux patients à méditer, vous leur donnez des cours et puis ensuite ils reproduisent ces...
Je ne suis pas instructeur, donc je n'ai pas l'autorisation. Et ce qui est rassurant d'ailleurs, hein, c'est l'Association pour le développement de la mindfulness en France qui qualifie ces gens-là, et c'est très encadré.
Mais donc, pour le patient, c'est-à-dire que vous apprenez au patient à faire de la méditation chez lui ou ça, non, vous...
Oui, oui, on apprend aux gens à être présents à eux-mêmes. Et ensuite, ça devient une espèce de mode de vie. Et ça veut dire qu'en 8 semaines, vous avez quelques clés que vous appliquez quand vous voulez. Vous pouvez méditer en épluchant vos pommes de terre.
Alors justement, c'est quoi la méditation dans le cadre des traitements des problèmes de sommeil? Vous faites quoi concrètement à la première séance avec le patient?
Alors, la première séance, c'est de prendre conscience déjà de tout son corps. Alors, les pratiques, elles sont assez simples, c'est-à-dire vraiment prendre conscience de ses émotions, de les accepter, sans jugement, sans a priori. On va être sur des lectures souvent corporelles, comme pour la sophro. Tout ça est très proche, en fait. Hein, tout ça est très proche. La sophro est partie de l'Occident pour aller en Orient, et la méditation est partie de l'Orient pour occidentaliser ses pratiques.
Un type d'exercice que vous pouvez proposer, comme pour des gens qui souffrent de troubles du sommeil, ça serait quoi, par exemple?
Les respirations. De toute façon, c'est fondamental, la respiration, qu'on peut retrouver également dans la cohérence cardiaque. La respiration, c'est fondamental, puisqu'en fait, on va gérer le cerveau limbique, celui des émotions, à partir de la respiration, c'est-à-dire en ralentissant les battements du cœur. Mmh. Il suffit d'expirer déjà et vous voyez que vous agissez sur vos battements cardiaques.
Et ça, je le fais en faisant la vaisselle ou en attendant au passage clouté que le feu passe au vert?
À tout instant. Et à temps égal détente, c'est-à-dire tous les moments qui s'imposent à vous, la machine à café, l'ordinateur qui ne démarre pas, etc. Tous ces moments, au lieu de vous énerver...
Et ça va m'aider à dormir, tout ça.
Mais oui, parce que vous allez lâcher prise.
Ça a l'air très simple comme ça, mais moi, je suis un peu sceptique quand même. Oui, je me dis, comment ça me fait dormir? Alors, ce que je vais faire dans la journée?
Surtout, ne me croyez pas, mais faites l'essai.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est une très belle accroche, effectivement.
Il est vendeur. Hein.
Non, c'est pas mal, mais c'est vrai. Non, mais c'est une très belle accroche. Mais est-ce que ça marche mieux en groupe? Est-ce que l'effet de groupe est plus important que de le faire seul, justement, devant la machine à café, où parfois, on n'est pas très motivé? Il faut dire ce qu'il y a. C'est un peu comme le sport. On va dans les salles de sport pour être accompagné et mimer ce que les autres font.
Alors, ça dépend, parce que la cohérence cardiaque, vous apprenez ça, mais en 5 minutes. Et quand vous savez que les pilotes de chasse, les sous-mariniers, les pompiers de Paris utilisent ce genre de technique pour gérer des situations stressantes, c'est que ça doit quand même tenir la route. Et en 5 minutes, vous apprenez ce que c'est. C'est pas hyper compliqué. Et une fois que vous l'avez appris, vous faites ça 5 fois par jour, si vous voulez. Et personne ne vous voit aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment dans votre poche, quoi.
Et vous dites, ce que je comprends pas, c'est comment ce que je vais faire dans la journée me fait dormir la nuit. Moi, je reste un peu cartésienne. Là, j'ai du mal à comprendre, en fait.
Et ben parce que si vous arrivez à lâcher toutes les pressions inutiles, si vous arrivez à vous détendre, vous n'allez pas arriver dans votre chambre avec un état de tension. Et si vous êtes détendu, j'allais dire, sur le plan psychologique et physique, ben, vous allez aborder votre nuit beaucoup plus sereinement. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un état de tension, et pour ça, par exemple, il ne faut pas écouter ou regarder ses SMS le soir, parce que c'est souvent les mauvaises nouvelles qui arrivent. Et là, c'est fini.
Jimmy. On prépare son sommeil comme on prépare son corps lorsqu'on veut aller à la plage, et donc on s'entraîne durant toute l'année. Donc c'est finalement de l'anticipation. Est-ce que l'alimentation peut avoir un impact? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut conseiller comme ça pour peut-être mieux dormir?
Alors déjà, pour être mieux éveillé, puisque sommeil et éveil sont vraiment complémentaires. L'Institut national du sommeil et de la vigilance qui organise là cette 20e session de journée du sommeil, c'est sommeil et vigilance. Donc le matin, déjà des petits déjeuners avec des protéines, des œufs, les laitages. Alors.
Pour bien dormir, il faut organiser sa vigilance. Et donc, ça commence dès le petit déjeuner.
Dès le petit déjeuner.
Donc, des protéines le matin.
On évite tout ce qui est sucré aussi, parce que l'hypoglycémie réactionnelle peut exister derrière.
Et le midi, on mange quoi alors?
Encore des protéines un peu, si on veut, bien sûr. Et puis, vers 17h, une collation avec...
Ça aide à dormir aussi.
Vous allez avoir dans les noix, les noisettes, tous les éléments, des oméga-3, tout le potassium, etc. Tous les éléments qui vont vous calmer, vous favoriser l'endormissement. Et puis, des bananes, par exemple, pour le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire quelque chose dont le corps a besoin, mais qu'il ne produit pas. La notion d'essentiel, c'est ça.
Et ça, c'est important pour dormir?
Ben oui, parce que... c'est pas un somnifère,
non,
la banane.
Bien sûr.
Mais la banane va favoriser l'arrivée de la sérotonine qui elle-même est précurseur de la mélatonine.
Merci beaucoup Patrick Lesage d'être venu sur notre plateau, nous aider donc à retrouver un sommeil de qualité. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les méthodes que vous proposez, je rappelle le titre de votre livre, 2 heures chrono pour bien dormir, aux éditions Dunod. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un problème assez courant et surtout dérangeant, l'aérophagie. On va vous expliquer les causes et surtout comment soulager ce souci. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'aérophagie. Savez-vous ce qui peut causer ce problème assez désagréable? Et vous, comment soulagez-vous d'éventuels ballonnements? Justement, Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions un peu intimes, mais il a osé. On écoute son micro-trottoir.
Ah, c'est le ballonnement, être ballonné.
J'ai entendu parler que c'était le fait d'avaler de l'air quand on mange, qui fait qu'on rote beaucoup.
Je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir se contrôler, d'avoir des gaz sans se contrôler, quoi, qui sortent tout seul.
Non, l'aérophagie, je pense, peut être également liée à des médicaments.
Quand on digère mal, ou un problème d'estomac aussi, c'est les acides à l'intérieur de l'estomac qui font qu'on a du mal à digérer.
Je pense que le fait de manger rapidement, ça provoque l'aérophagie.
Ça peut être l'alimentation, ça peut être lié à l'âge.
Un gastro-entérologue, je pense, c'est le professionnel médical qui peut accompagner ce type de problème.
Bah, on pète et on a mal au ventre, c'est désagréable.
Alors j'ai mis un point sur l'aérophagie à présent. D'abord, peut-être préciser que finalement, le terme aérophagie ne fait au départ que décrire un phénomène naturel de circulation d'air et de gaz. Il est mal employé en fait. L'aérophagie, c'est pas un problème en soi.
Exactement, c'est un phénomène que vous connaissez bien, Mélanie. Vous l'avez dit en antenne.
Sûr, je lui disais arrête, ne faites pas Jimmy de référence à moi.
Et voilà, vous m'avez confié souffrir d'énormes problèmes digestifs. Et donc c'est en fait juste le mot qui correspond à la déglutition normale de l'air dans le tube digestif. Tous les jours, on déglutit plus de 1000 fois par jour, soit pour avaler des aliments, de la salive ou tout autre liquide qui vous ferait plaisir. Alors, on en ressort une petite partie par l'airo, par exemple, et puis le reste va dans le tube digestif. Ça va diffuser parfois un peu dans le système sanguin, et puis ça va ressortir un peu par le bas pour assurer la bonne digestion.
Ça, vous connaissez bien.
C'est les flatulences ou les fameux gaz. Alors, quand tout va bien, on peut avoir entre 200 et 500 millilitres de gaz sans que ça pose problème, mais parfois on peut souffrir un peu d'inconfort, d'être ballonné, et là à ce moment-là on parle d'aérophagie, même s'il faudrait plutôt parler de flatulence ou de ballonnement.
Alors justement Jimmy, on va en venir au traitement de ces problèmes. On fait quoi? Il y a des médicaments pour traiter de l'aérophagie, enfin même si c'est mal employé l'aérophagie?
Alors déjà il faut être sûr que ce soit de l'aérophagie et pas tout autre problème médical qui nécessiterait un traitement spécifique. Et puis si c'est simplement ces petits troubles digestifs, aucun traitement médicamenteux n'est nécessaire. En revanche, vous pouvez acheter à la pharmacie sans ordonnance un peu de charbon actif qui pourrait être efficace pour réduire les problèmes de ballonnement. Demandez simplement conseil à votre pharmacien, ça pourra vous aider.
Et sinon, vous avez dit, je crois qu'il y a des mesures d'hygiène, en fait, surtout, qui, du bon sens, qui permettent de limiter les dégâts.
Si vous avez absorbé trop d'air, c'est que vous avez trop dégluti, et donc il faut essayer de manger un peu plus lentement, de mastiquer plus longtemps et plus soigneusement. Si vous avez un appareil dentaire, il faut vérifier son bon port, et puis éviter certains aliments comme le pain de mie, la meringue, les pommes, qui sont dits aérés et qui vont entraîner plus d'aérophagie, comme les boissons gazeuses par exemple.
Et puis il faut bouger, je crois, quand on fait de l'aérophagie, oui. Quand on a des problèmes de ballonnement après le repas, pourquoi pas marcher un peu?
Exactement,
c'est ça,
la petite marche tranquille durant 10 à 15 minutes vous permet de mieux digérer et de laisser votre transit un peu au repos, et puis c'est pas mal pour les collègues qui peuvent être embêtés au bureau. Je passe un petit message comme ça, Mélanie.
Ça, ouais,
voilà, marchez, ça nous fera tous du bien.
Ah, l'enfoiré. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h, et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo, aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. Il sera question de ces personnes qui aiment jouer durant les rapports sexuels, notamment grâce à des déguisements ou à des jeux de rôle. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed, et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui on va répondre à cette question d'Arthur, un garçon enfin, parce que c'est vrai que cette semaine on a eu que des filles quasiment qui nous ont posé des questions. Alors je vous lis la question d'Arthur. Ma copine avec qui je suis depuis un an me demande souvent de mettre des chaussettes hautes, un short et un maillot de foot pour faire l'amour. Elle fantasme sur les joueurs de foot, je l'ai fait deux, trois fois pour lui faire plaisir, mais ça ne me plaît pas du tout. Comment lui faire comprendre? Alors Catherine, c'est fréquent ce genre de fantasme, un peu de l'uniforme, du sportif ou autre uniforme?
Oui, parce que là, enfin, c'est fréquent. Non,
ça fait partie des jeux.
Voilà, ça fait
quoi,
partie
ouais.
des jeux auxquels on peut s'amuser, évidemment. Mm. La question, c'est quand c'est un peu obsessionnel. Là,
voilà,
ça,
ouais,
c'est un
bizarre,
peu limitatif de la sexualité. Mais sinon, qu'on joue bah là, aux joueurs de
footballeur.
Foot, aux footballeurs ou aux docteurs.
C'est un peu vexant, moi, pour lui, quand même. Non, enfin, je sais pas.
En tout cas, c'est sûr que ça met en évidence que ce qui me m'excite, c'est autre chose que toi.
C'est ça.
Donc c'est, mais simplement dans la mesure où le partenaire ou Arthur rentre complètement dans le jeu, ben ça devient lui complètement. Mmh. Lui avec des talents de comédien, lui qui s'amuse à être le temps d'un soir.
Ça n'a pas l'air d'amuser, c'est ça le problème.
Mais là, ouais. ça ne l'amuse pas du tout.
Mais c'est bizarre, non, quand même, le footballeur, je reviens dessus parce que bon, c'est pas que moi ça m'intéresse, mais j'avais plus l'impression que les femmes, certaines étaient intéressées par les, je vois, les uniformes de pompiers, de militaires, mais footballeur.
C'est vrai,
pas.
Ça vous concerne pas du tout.
Non, non, moi, ça me... c'est pas que ça me parle, mais non, je sais pas, footballeur, c'est la première fois que j'entends ça.
Bah, en tout cas, ça raconte des personnages qui sont, ça peut être des stars, d'une certaine manière, puisque les joueurs de foot sont à un niveau de l'échelle sociale assez représentatif d'une victoire et d'une compétence. Ça peut être ceux qui marquent des buts. Donc là aussi, dans la sexualité féminine, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de viser juste, en quelque sorte.
Je rigole parce que Jimmy adore le foot, hein, me dis qu'il doit avoir une question super là derrière, non Jimmy?
Oui, parce que ça dépend aussi peut-être de l'équipe de football. Imaginez un footballeur voilà, avec l'Olympique de Marseille, je pense que la libido va chuter à ce moment-là, alors que s'il vient avec maillot
alors
de Paris
Saint-Germain... Alors vous n'engagez que vous, je vous préviens.
Oui, mais c'est du bon sens que là, vous parlez de but, de victoire, et ça c'est plutôt le Paris Saint-Germain qui l'incarne.
Ah là là là,
on est dans une émission
musicale. Oui, mais on est dans une période un peu morose, on parle de coronavirus, là on peut parler de quelque chose qui est le rayonnement de la France à l'international.
Nous ne parlerons pas de nos origines les uns et les autres.
Vraie question, est-ce qu'il faut garder le maillot du Paris Saint-Germain ou d'un autre durant l'acte sexuel ou est-ce que c'est simplement durant les préliminaires et puis quand on passe à dire aux choses sérieuses, il faut le retirer.
Des trucs précis là, Jimmy, attention. Non,
vous nous avez totalement paumé. Eh bien, vous faites ce que vous voulez, c'est votre sexualité et j'en suis très heureuse pour votre femme d'ailleurs. Gardez-le, votre t-shirt, si vous voulez pas montrer votre torse merveilleux, etc. Ou alors
ça a l'air quand même un peu de le déranger, Arthur. Est-ce qu'il doit refuser de dire non, je l'ai fait une ou deux fois? Là, ce monothème m'agace. Est-ce qu'on doit refuser justement quand ça devient un peu pénible?
Oui, je crois qu'il faut mettre gentiment. Il faut dire, écoute, ma chouchoute, là, c'est un peu redondant. Changeons de film. On l'a vu
change
déjà.
De mec, sinon.
Cet épisode, on l'a vu un certain nombre de fois. Et si derrière le maillot, c'est un joueur en particulier qui t'excite, je suis désolée, je ne suis pas celui-là. Et c'est assez douloureux de penser qu'il n'y a que ce joueur qui pourrait t'intéresser. Parce que si ça se trouve, elle veut qu'il soit habillé avec la tenue d'un en particulier, source de ses fantasmes.
Là, c'est encore plus.
Donc
flippant,
là,
moi,
ça devient un peu inquiétant en réalité, effectivement. Donc oui, de façon générale, et là on sort du sujet de la tenue de foot, de façon générale, dans la mesure où ça ne nous amuse pas, on ne le fait pas.
C'est ça la règle en fait.
Ou on ne le fait pas trop. Et on ne se réduit pas à simplement ce que l'autre demande sous prétexte d'être aimé. L'amour ne nécessite pas une soumission au désir et au fantasme de l'autre dans l'absolu.
Est-ce que la tenue du plombier est excitante? Et si oui, pourquoi? Parce que parfois on comprend, non, mais dans certains films, on a le plombier qui débarque
Jimmy,
à la maison.
Le fond, là.
Non mais c'est vrai, non, mais autant on peut comprendre le militaire, le médecin parfois, l'infirmière,
mais
le plombier franchement. Non mais j'ai rien contre les plombiers.
Règle les urgences, hein, je suis désolée.
Oui,
les urgences de tuyauterie, exactement.
Ah, c'est
le héros, mais est-ce que, évidemment, peut-être vous êtes un grand bricoleur, donc pour vous, ça ne vous dit rien, le plombier, mais pour une femme qui est vraiment en difficulté, le plombier et le sourire du plombier, bon, c'est pas toujours d'ailleurs
habile
très élégant.
Mains, c'est peut-être ça en fait qui est. D'accord.
C'est quelqu'un qui vient, qui secourt, qui est. Alors effectivement, ça c'est un fantasme, peut-être, mais je crois que c'est surtout un fantasme de la pornographie et donc masculin. Parce que finalement, j'ai rarement rencontré, d'ailleurs je n'ai pas rencontré de femmes qui étaient très intéressées par le plombier. Il y a plutôt le jardinier, il y a plutôt...
En fait, dès qu'on se déguise, parce qu'il y a aussi la maîtresse d'école, non, qui, aussi, qui peut revenir comme fantasme. Non,
je sens très très inspirée.
Vous êtes à fond aujourd'hui,
Jimmy.
Dès qu'il
y a un jeu de rôle, il peut y avoir un jeu de séduction.
C'est la fin de la semaine, il se lâche complètement.
Oui, de toute façon, tous les jeux de rôle, c'est une occasion de jeu, justement. C'est une occasion de rire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans notre
studio.
Donc voilà. Et évidemment que la sexualité en est l'occasion merveilleuse.
Et tant que ça ne devient pas une fixette, ça va.
Voilà. Si ça devient une fixette et que c'est la fixette des deux, why not? Mais à un moment donné, de toute façon, on tourne en rond et la sexualité a toujours besoin de renouveau, elle a toujours besoin de créativité. Donc soyons créatifs. Alors pourquoi pas le joueur de foot?
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. On sent que c'est la fin de la semaine quand même, hein, comme toujours. On va tous aller se reposer.
Je crois que c'est urgent.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc lundi dans 100 rendez-vous. Nous allons consacrer évidemment, on l'a dit, une heure au coronavirus et surtout à toutes les questions que vous vous posez sur cette épidémie. On a déjà reçu beaucoup de questions et donc dès lundi, nous vous répondrons avec des spécialistes, hein, évidemment, dans ce studio, des infectiologues, des urgentistes, des épidémiologistes. Ils seront là pour vous préciser la marche à suivre, hein, dès lundi, pour tous bien nous protéger, évidemment. Mais à présent, je cède la place à Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est le rêve secret de ma collègue Eva Rock, et peut-être le vôtre aussi, Mélanie, se mettre au pole dance. C'est ce que fait Melabedia dans un film drôlissime, Forte, qui sort la semaine prochaine. Elle joue aux côtés d'Alison Wheeler. Elles sont toutes les deux mes invitées dans l'équipe sauvage.
Merci beaucoup Mathieu. Je vous souhaite évidemment une excellente émission. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous, surtout, restez sur Europe 1.